nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Avec un programme où les utilisateurs ont le contrôle du programme, où le programme a le contrôle des utilisateurs.
La seule incitation à innover, c'est qu'on vous copie.
Eh bien le bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Nous voici pour le premier vendredi, et du coup, c'est source. Donc le temps que mes camarades s'installent et se posent calmement, je vous propose un petit morceau de détente. Et ça partir maintenant.
Artlist.io.
Girl there ever was, Annie darling. Music licensing reimagined.
I'm so glad we had the chance to meet you. Caught my eye and you held my stare. I haven't broken it yet for over 50 years. Thanks for letting me lay by your side.
Mais des pubs, non?
Ouais,
c'est pas cool.
Non.
Attends.
Et du coup, tout le monde est là?
Ouais.
Du coup, on a Thiers?
Yes.
Présent.
Nico?
Yes.
Agéo.
Hello. Mais toi, tu mets le micro allumé sans prévenir, quoi.
Mais tu as une petite lumière pour te prévenir.
Ouais, une grosse lumière rouge, même. Non, mais,
Et Peter, qui est en train de se brancher à droite à gauche.
Oui, il a besoin de courant.
Du coup, jeunes gens, aujourd'hui, de quoi on parle?
Bonsoir, je sais pas.
Bonne année, ah non.
Quel judiciaire?
Pourquoi pas?
Commencer directement dans...
Allez, les bonnes nouvelles!
Les bonnes nouvelles!
La tournée des bonnes nouvelles. C'était qui? C'était quoi? C'était Amazon, c'est ça?
Oui!
Ah oui, le... Bon, enfin, oui, je sais pas comment on dit ça. Peut-être que les auditeurs et les auditrices ne le savent pas, mais les grosses entreprises et en fait toutes les entreprises qui fournissent du contenu ou qui hébergent du contenu ou qui peut-être transitent du contenu sur Internet, parfois sont soumis à des obligations légales émanant de requêtes judiciaires, par exemple, demandant d'avoir accès à certaines informations concernant... Voilà, une adresse IP, un utilisateur, à un certain moment donné, une date, une heure, ou que sais-je, ou un créneau de jour ou de moment, peu importe. Et donc, pour les grosses boîtes à la GAFAM, il y a aussi ce devoir de publier, enfin, je ne sais pas si c'est un devoir, je me demande même pourquoi exactement ils le font, mais je pense que c'est dans un souci d'une certaine transparence envers les utilisateurs, de publier le nombre de requêtes judiciaires auxquelles ils ont été confrontés durant une période donnée. Dans le cas d'Amazon ici qui nous concerne, nous avons deux périodes. Le premier semestre de l'année passée, donc de janvier à juin, où il y avait eu 3000 requêtes judiciaires émanant de diverses autorités concernant donc des utilisateurs, utilisatrices ou je ne sais pas, des services de cette entreprise. Pour ce qui est du deuxième semestre, donc de juillet à décembre, le chiffre de requêtes en question est passé à 27 000. Donc petite légère croissance. Voilà, moi, ça ce n'est que pour une entreprise. La question que je me pose derrière, c'est mais comment les services légaux ou je sais pas quoi font pour traiter autant de dossiers ou demandes ou données? Et donc voilà, ça c'était le petit rappel que c'est pas tout d'héberger des choses, mais on est parfois aussi tenu de répondre quand la loi nous y oblige à des à leur requête.
C'est peut-être qu'ils ont mis en place un beau site web spécifique pour les ordres.
Oui, ils ont des bonnes quêtes.
Qu'ils ont dit, ah, oh, il y a un nouveau site, on va...
Ah oui, il y a sûrement... Non, mais tu rigoles, mais il y a sûrement quelque chose qui a été automatisé quelque part pour...
Sûr.
Par exemple, l'Allemagne, à elle seule, totalise 11 000 requêtes en 6 mois. Alors, je fais pas le calcul comme ça là, de tête, mais ça fait un paquet par jour quand même. Une centaine par jour, je sais pas, non plus. Enfin voilà, mais...
Oui, ça se paye aussi. Je sais plus les prix, mais j'ai... Dans une des... Mais ça coûte à la...
Ah, ouais.
À la aux
donc,
ordres, aux...
donc sans automatiser ça par un quelconque moyen, je vois pas comment ils font effectivement.
Oui, j'ai, dans mon souvenir lointain, dont je ne pourrais pas vous citer le source parce que c'est trop lointain, mais oui, il y avait déjà eu une publication du genre sur le fait que ben, quand il y avait des demandes adressées à Microsoft, Microsoft facturait, entre guillemets, la réponse en tant que service à l'organisation qui demandait des informations. Donc c'est un chouette win-win. Évidemment, les services en question étant des pouvoir public, on va dire, c'est donc l'argent public qui paye la facture sur le traitement de l'information effectué par l'entreprise qui doit donner ces informations à au service public ou juridique ou je sais pas dans le cadre d'une enquête. C'est rigolo, ça doit être un business juteux, surtout quand tu as des croissances comme ça.
Combien est-ce que le trilet de charge quoi, ça, pour...
on n'en a encore jamais eu, donc du coup, on doit avoir ou des utilisateurs et utilisatrices très gentils, ou on doit être trop petit pour intéresser qui que ce soit, je sais pas.
Okay, on a eu une demande du gouvernement français, enfin, de la police française.
Ouais, mais on n'est pas à ce niveau-là. C'était une demande qui tâtait le terrain pour savoir dans quelle mesure on pouvait faciliter, on va dire, le rapport, la relation avec les services fédéraux français si un jour il serait question d'un travail d'enquête. En mode de préparer le terrain. C'est peut-être un mail, au fond, qui cherchait juste à savoir combien Nutrinet facturerait le service auprès du gouvernement.
Ah,
on a raté une occasion, on aurait dit « Ah, pas de problème, nous on vous donne tout, qu'est-ce que tu veux, c'est 50 000 euros le kilobit d'information.
» T'es la chance.
Oui, non, c'est... Oui, on est, je ne sais pas, oui. Fin...
Oui, et après, tu t'arranges pour, avec ces 50 000 euros pour forger des fausses données qui sont plus ou moins crédibles, tu vois. Et...
On va couper les micros, là. Puisque...
Oui, non, on ne fait pas ça. C'est mal, ne faites pas ça chez vous.
Oui, vous risqueriez de vous blesser.
Mais c'est dans ce genre de cas où on voit et on prend conscience de toute la partie Cloud Act que le gouvernement américain a tort utilisé.
Oui.
Donc, pour rappel, le Cloud Act, c'est une loi américaine qui permet à toute entreprise américaine, peu importe où la donnée se trouve, de lui donner accès au gouvernement américain.
Si c'est payé en dollars,
mais ça c'est plus ou moins récent, non?
Ouais, ça a 2 ou 3 ans
2018,
maximum.
2018, je crois.
Ah oui, donc ok, mais donc ce n'est pas. Je pensais que c'était carrément 2020. Mais parce que ici, dans leur petit rapport, et l'article dit que c'est très concis, effectivement, il y a 3 pages d'Amazon, là. Il y a une question, c'est est-ce que le Cloud Act change quelque chose à la manière dont vous répondez aux requêtes? Et ils répondent non, et après ils détaillent un peu. Donc j'imagine que pour eux, ça n'a pas changé grand-chose. Peut-être qu'ils ne... Enfin voilà, je devrais lire le truc, mais...
Et donc c'est même en dehors des États-Unis donc.
Oui, c'est peu importe où le serveur se trouve.
C'est rigolo parce que ça date de 2018, mais le RGPD lui date de 2016. C'est un peu presque une réponse à une réglementation européenne sur la protection des données.
Quoique le RGPD, ça fait longtemps qu'ils sont en discussion. Hein. Ça.
Oui, ça fait longtemps que c'est en discussion, mais ça avait été adopté en 2016, je crois, et ça devait rentrer en application en 2018, en même temps que le Cloud Act. Mais non, mais c'est vrai, c'est toute la question, comme ça, je dirais, en 20 ans, tout le monde utilise des machins, des smartphones, des tas de trucs en ligne. Mais au fond, tout ça, c'est des outils fantastiques pour obtenir de l'information. Autant quand on est utilisateur ou utilisatrice, qu'on veut savoir quand est-ce que va sortir la nouvelle paire de baskets, machin, ou où est-ce que je peux aller passer mes vacances, ou où est-ce qu'il y a de l'information concernant mon activisme, ou que sais-je. On peut tout trouver sur Internet. Bah, donc, du coup, dans l'autre sens, ça marche aussi. On peut tout trouver sur toi. Et voilà, et puisqu'on vit quand même dans une magnifique société qui met fort l'accent sur l'économie de marché, bah, il n'y a pas de raison que tout ça se vende. Parce que voilà, un service public n'est qu'un client comme un autre. Quand il est question de répondre à une requête judiciaire et d'envoyer les informations, on envoie en même temps la facture. Voilà. C'est business is business.
Après, pour Amazon, je ne sais pas trop comment ils font. C'est ça le problème, c'est qu'ils disent qu'ils sont transparents, mais au final... n'y a pas vraiment de comment ça se passe, tu vois, sur quelle base, par exemple, quels sont les types de requêtes, ça ils pourraient donner, tu vois, ou bien est-ce qu'ils facturent effectivement, comment ils arrivent à traiter autant de demandes, tu vois, tous ces détails là ils les donnent pas, ils donnent le minimum. Je sais pas si c'est légal, je comprends pas trop la démarche derrière.
Mais t'as Google qui fait la même chose, t'as Microsoft qui fait la même chose, ouais. Ce genre de rapport, enfin, c'est assez courant.
Peut-être que comme d'autres entreprises le font, ils se sentent un peu obligés de le faire.
Ce serait pas étonnant.
Ouais, on peut émettre beaucoup de suppositions, mais bon, c'est quand même des entreprises aussi qui sont souvent des entreprises cotées en bourse, et que dans le cadre des cotations, il y a aussi beaucoup de devoirs de publication concernant leurs activités pour justement que l'actionnariat et compagnie puissent avoir des informations suffisamment, on va dire, pertinentes sur les décisions d'investissement ou non. Donc,
oui, pour justifier les frais d'avocat, etc., aussi, ne serait-ce que ça. Non, mais tu rigoles, oui, mais vrai, oui. ils rendent des comptes aux actionnaires, donc oui, ça doit jouer.
Oui, voilà. Si publiaient rien du tout, ça serait suspect. Peut-être qu'on devrait aussi, Neutrinet, publier zéro. Ouais, cette année, premier semestre, zéro.
Deuxième semestre, zéro. Troisième semestre,
Dans les services crypto, cryptés, ça se fait avec un canari.
Ouais, la règle du canari.
Qui est sur sa branche, s'il tombe de sa branche, tu sais, oups, il se passe quelque chose. Donc, une page web qui se rafraîchit chaque journée, sauf en cas de... Puisque, bon, les requêtes judiciaires, tu n'as pas trop communiqué non plus dessus. Du coup, ils arrêtent de publier cette page.
Ah oui, là, le canari,
tu sais, okay, ouais. Où il y a un truc qui est en train de descendre.
Ouais, t'as compris. Ouais.
Bah, l'idée, au lieu de publier le rapport a posteriori, c'est d'avoir tous les jours un signal pas de requête, pas de requête, pas de requête, pas de requête. Mais quand la page affiche un canari mort, par exemple,
où il n'y a plus de page,
c'est que, ah tiens, ils ont... j'ai reçu... l'association Neutrinet a reçu une requête judiciaire. Tiens, ça tombe, c'est bizarre, je suis membre de Neutrinet et je fais des choses pas propres. Je vais vite.
Est-ce que tu veux qu'on
débrancher mon disque dur,
qu'on hisse un drapeau noir le jour de requête judiciaire pour informer, ou bien de la fumée, un signal de fumée
Justement, c'est dans l'autre sens qu'il faut le faire. Il faut faire quelque chose en permanence, et quand il y a une enquête, il ne faut pas la faire.
Ouais, mais du fait, tous les jours, ça va être chaud quand même. Hein.
Mais c'est ça le canari, c'est en fait d'avoir une routine qui existe tout le temps. C'est le fait de ne plus la faire qui alerte. Ouais. Parce que souvent, quand tu as des requêtes de ce type-là, ils te disent que vous ne pouvez pas communiquer. Par contre, ils ne t'interdisent pas d'arrêter de faire quelque chose.
Mais ne pas communiquer, c'est déjà communiquer. Vous avez 3 heures pour un débat.
Oui. Je ne sais pas si tout ce qu'on dit sur cette onde radio est très...
écouté.
Est très écouté, si j'en sais rien, est très correct. Dans le respect de tout ce qui se passe dans cette belle société de surveillance capitaliste. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bon, les requêtes judiciaires, ça, c'est fait.
Du coup, on peut parler du FOSDEM, OFDEM qui a lieu ce week-end avant d'attaquer notre gros morceau de messagerie.
Alors, c'est quoi le FOSDEM?
Oh, un tout petit truc qui habituellement se fait à l'ULB.
Alors, le forum de l'open source, mais je ne sais plus le reste.
Je sais pas, genre free and open source software.
Oui, free open source.
Development. Le E, je sais pas ce que c'est. Meeting.
European.
Ah, European meeting. Ouais.
Ah, c'est... peut-être bien. Ouais.
Ah, non, c'est ça.
Oui, c'est exactement
et,
ça.
Et donc, ouais, d'habitude, ça se passe à l'UNB, première semaine de février, enfin premier week-end de février. Ouais. Et ben là, ils pouvaient pas rassembler des milliers de personnes. Je sais pas pourquoi, j'ai pas trop compris. Une histoire de Corona, je sais pas quoi. Et donc, ils vont le faire en ligne. Je sais pas où ils ont eu cette idée. Et du coup, je sais plus combien il y avait de conférences disponibles quand j'ai checké, je crois une 500, peut-être plus.
Ouais, je veux un chiffre.
Je sais pas comment on fait pour. 570, pour moi, j'ai abandonné, je t'avoue que j'ai même pas été voir. Je ne sais pas si vous avez été regarder un peu ce qu'il y avait.
Non.
Moi, j'ai regardé un peu.
Et bah, c'est bien, on voit qu'on préfère l'œuf-dème du fausse-dème.
Alors, le œuf-dème, c'est quoi? C'est un contre-fausse-dème.
Alors, c'est quelque chose qui n'est pas sponsorisé par Google, Red Hat, Pack Market, Cisco, Huawei, l'ULB et d'autres. donc, comme le disent les choses, ça se fait en off. Et en fait, c'est tout le contraire.
Donc, c'est pas sponsorisé par machin, c'est en physique, en présentiel.
Oui, c'est une réunion de travail et pas un festival de la vidéo à la demande.
Uh-huh.
Et voilà.
Festival de la vidéo, j'aime bien.
Ils font ça sur Twitch ou alors ils vont le faire proprement sur des serveurs à eux ?
Qui
bah, le festival, hein.
Le FOSDEM ?
Attends, on mélange deux trucs là maintenant.
Oui, oui, pardon, pardon. Restons sur le OFDEM qui n'est pas un festival de vidéos à la demande.
Le OFDEM, ça a lieu ici à Bruxelles et c'est en marge du FOSDEM. Voilà, que dire.
Et comme c'est une réunion de travail, bah, ça va être un truc plutôt privé en fait.
Bah oui.
Du coup, je sais pas trop quoi en dire pour le moment parce que moi je sais que bah, du coup, les gnuragistes et Neutrinette, on va faire un atelier chacun, donc le samedi et le dimanche. Et on racontera comment ça s'est passé. Je sais pas.
On peut dire que pour les plus curieux, ils peuvent aller sur le forum de Petite Singularité.
Oui. C'est Zoetical, non, ps.zoetical.
Oui, bah oui. Si tu tapes OFDEM, à mon avis, dans ton moteur de recherche préféré, avec deux F. Ouais. Je pense que oui. En tout cas, sur DuckDuckGo, ça apparaît en premier résultat. Pour la Belgique. Oui, oui, oui. Mais donc voilà, évidemment, là-dedans, on a un fort ancrage dans les logiciels libres et pas du tout de contamination GAFAMesque, ni de près ni de loin.
Le moment agenda du week-end a été fait. Sauf si vous avez encore quelque chose à rajouter.
Ah non, moi pas.
Eh bien du coup, je vous propose une petite pause. Comme ça, après, on va pouvoir parler de messagerie et de tout ce qui s'est passé récemment. Il y a plein de choses à raconter.
Ah merde.
You've got mail.
Je vois que le chat du FOSDEM, c'est sur... chez Bezos.
Sur Amazon.
On avait dit des bonnes nouvelles.
On en parlera après, on en parlera après.
Ouais, bah, c'était étonnant. Bah, c'est pour ça qu'il faut forquer ensemble.
C'est fait, ça fait deux ans.
Et Peter, allonge-toi, ça va aller. Ne panique pas.
This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now, we feel the night is upon us. We fall in you. We'll be right back.
Radio Campus, le carnaval, c'est dans ta tête.
Mais non.
Mais bien sûr que si. Donc, juste avant, on avait un Virtual Fries in Paris. Et du coup, on peut parler des différentes messageries.
Là aussi, c'est le carnaval dans ta tête. Il y avait le chat aussi, non?
Le chat. Le chat.
Le chat de Fosdem? Non.
Il y a plein de choses.
Ouais. Moi, j'avais vu que Fosdem s'est orienté vers Matrix, les gars qui font un logiciel fédéré de...
Ouais, donc Matrix, c'est un serveur de chat, donc messagerie instantanée, qui est effectivement fédéré. Donc il y a matrix.org qui est celui qui est maintenu et hébergé par la fondation Matrix. Je crois que c'est une fondation. Et après, ils peuvent on peut chacun en fait auto-héberger son propre serveur Matrix. Moi, j'ai le mien, par exemple. Et donc, ils vont se parler, ils vont quand même pouvoir se parler. C'est comme les serveurs mail, c'est pas plus compliqué que ça. Quand tu veux parler à quelqu'un, tu fais at le pseudo, arrobase encore une fois, le serveur.
Double point, non ?
Ou deux points ?
Double point.
Enfin, c'est le même principe. Donc, on donne le pseudo, on donne le serveur, et hop, le serveur sait communiquer pour peu que le serveur en face, ou le sien, ou le nôtre, est joignable dans la fédération. Mais en général, c'est le cas. Enfin,
comme un serveur mail.
Si on l'a bien configuré, c'est le cas.
C'est ce que j'étais en train de me dire, c'est le même principe que les mails.
C'est exactement le même principe.
Mais c'est basé BEP.
C'est basé sur du HTTP. C'est du HTTP pur.
Ouais.
Ils n'ont pas voulu s'embêter comme XMPP à faire un protocole spécial. Donc XMPP qui est aussi un messager instantané décentralisé où chacun peut héberger son serveur. Donc ouais, c'est du HTTP et on peut envoyer des fichiers, s'appeler aussi si on pour peu d'avoir configuré ça. Enfin, c'est à nouveau, c'est pas mal du tout. Et alors le client qui pour donc ça c'est le serveur Matrix et le client s'appelle Element. Avant il s'appelait Riot, ils ont changé de nom il y a pas si longtemps. Et du coup, ça me fait penser du coup que Element, il y a quoi, la semaine passée, s'est fait retirer de la liste du Play Store en fait, donc de Google, Android. Donc l'application qui est normalement disponible pour Android n'était plus disponible du jour au lendemain et ils n'ont pas été notifiés par Google en fait.
C'est étonnant.
Donc ils ont été un peu surpris et ils ont envoyé un mail pour dire mais qu'est-ce qui se passe ? Et donc vers minuit et vers 5 heures du matin, on leur a répondu que voilà, il y avait eu un abus il y avait un abus sur leur serveur qui ne respectait pas les conditions générales et blablabla de Google. Ils ont répondu oui, mais non, parce qu'on a des salariés et tout qui surveillent ça et non, je suis sûr qu'il y a une erreur. Voilà, échange de mails, etc. Au final, Google s'est rendu compte qu'ils avaient fait une grosse bêtise. Et qu'en fait, Matrix avait déjà réglé le problème. Donc, il y avait effectivement eu un abus, mais ils avaient traité le problème avec leur équipe de modération. Et donc, il n'y avait pas lieu de bloquer. Mais Google, ils ont un peu la gâchette facile.
Oui, c'était du contenu.
Je ne sais pas comment ils voient ça. J'imagine que tu peux...
Si je t'envoie
dans l'application, tu peux dire report cette personne et dire, par exemple, cette personne a des propos racistes, tu le reportes. Et visiblement, ça tombe aussi chez Google, ça tombe chez Matrix, en tout cas chez la personne qui gère le serveur. Et ça tombe apparemment aussi chez Google.
Pour prendre l'exemple d'une autre application, tu as Podcast Addict, qui est une application Android pour gérer des podcasts. Et souvent, elle se fait report parce que les vignettes des podcasts enfreint certaines lois dans certains pays. Et du coup, elle est report, elle est souvent suspendue parce que Google dit « Oui, mais il y a du contenu qui remplit pas notre charte. » Et Podcast Addict souvent dit « Oui, mais nous, en fait, on ne gère pas ça. C'est le flux RSS donc, des différents podcasts qui amène ces vignettes. On n'a pas la main dessus. » Du coup, maintenant, tu as des gros encarts dans l'application qui est « Avant de reporter chez Google, s'il vous plaît, reportez-le nous en interne pour qu'on résout ça calmement. »
D'accord, donc c'est bien deux canaux de report. Mais du coup, le problème, enfin, donc évidemment, Matrix aussi a rappelé que c'est utilisé par plusieurs gouvernements, donc leur application. Notamment, en fait, à la base, il y avait une application qui avait été développée pour le gouvernement français. Et maintenant, il y a aussi le gouvernement allemand, anglais, etc. Enfin, donc, ce n'est pas non plus un petit truc. Enfin, c'est devenu quand même assez utilisé, en tout cas, par les instances gouvernementales. Et donc, voilà, c'était aussi pour dire à Google, vous faites quand même un peu de la merde, là. Donc, réglez-les. Mais ça a mis quand même quelques jours, 5-6 jours avant que ça réapparaisse. Et donc, dans leur article de blog, ils expliquaient, mais en fait, si le mieux, c'est encore que vous installiez l'application via F-Droid. Et F-Droid, c'est un Google Play Store
alternatif.
Libre, en fait, surtout. Il fait que toutes les applications qui sont dans F-Droid doivent avoir le code source, doivent avoir un code source libre, sous licence libre. Et c'est un prérequis. Matrix, évidemment, ils sont dedans. Enfin, Riot, Element, je confonds du coup les deux. Donc, Element, ils sont dedans. Et dans F-Droid. Et voilà, donc on peut aussi passer par là sans subir la censure de Google. Et le seul problème avec F-Droid, c'est que pour l'installer, c'est un peu la croix et la bannière, parce que Google n'aime pas trop qu'on installe des trucs tiers comme ça, tu vois. Genre un machin qui pourrait installer des applications, ils n'aiment pas trop. Alors, c'est sur Internet, il faut suivre les tutos, mais ça se fait assez vite, mais c'est plein de warnings. Du style, il faut déjà cocher une case qui dit « j'autorise j'autorise l'installation d'applications tiers. » Puis après, il faut télécharger un binaire. Donc, ça fait un peu peur. Puis après, une fois que tu l'installes, tu reçois un warning. « Attention, vous êtes en train d'installer un binaire pas certifié. Est-ce que vous voulez continuer ?» etc. Voilà, il y a 5-6 étapes comme ça. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Et c'est vraiment une libération de ne pas devoir passer par Google, parce que Google aussi ajoute des trackers, il faut le savoir, à ses applications. À les applications du Play Store, ils vont rajouter des trackers publicitaires. Même s'il n'y a pas de publicité dans l'application, y en a qui ont déjà eu la mauvaise surprise de se rendre compte que... Enfin, des mainteneurs d'applications qui voyaient ça.
Sans blague.
Et tandis que sur F-Droid, en fait, c'est signé... je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est une signature, on l'a déjà un peu expliqué dans l'autre émission, mais le paquet de l'application est signé dans F-Droid et donc est garanti ne pas bouger. En fait, ce sera le même que celui que le mainteneur a créé. Mmh. C'est pas F-Droid qui va. Si F-Droid modifiait, ce serait plus la même signature en fait. Mmh. Elle serait plus.
C'est les développeurs qui signent eux-mêmes leur application avant de l'envoyer dans F-Droid.
Tandis que pour Google.
De Google, où c'est Google qui signe les applications à la place des développeurs.
Exactement. Et donc, en fait, ça change tout parce que ça crée, par exemple, le plus sympa, entre guillemets, c'est les trackers publicitaires. Le moins sympa, c'est des espions, enfin des spyware, etc. Tu peux aller très loin, pour dérober. Voilà, et je ne veux pas rentrer dans la parano non plus, parce que Google n'a pas vraiment intérêt à faire ça, mais c'est possible. Donc voilà.
Du coup, pour un peu rebondir, le site de F-Droid, c'est f-droid.org, et au-dessus, vous allez tomber sur la documentation qui est en français, et vous expliquez pas à pas de comment pouvoir installer ce store alternatif uniquement avec des logiciels libres à l'intérieur. Et pas mal de messageries qu'on va discuter dans les prochaines minutes sont disponibles directement sur F-Droid.
On parle bien de smartphone.
Ah oui.
Mm-hmm. Je comprends mieux pourquoi je n'ai pas de smartphone.
Mais donc le FOSDEM devait utiliser Matrix pour pas perdre le fil.
Matrix.
Ils ont annoncé ça il y a quelques semaines, moi je sais plus. J'avais vu sur un blog le blog de Matrix. Qu'ils allaient faire centraliser la conf dans les chatrooms.
Ben oui, mais ça, c'est comme on faisait avant avec un salon IRC. Ça existe toujours d'ailleurs.
IRC, c'est la vie.
Ouais, au CCC, ça c'était aussi marrant, il y a un mois. C'était aussi marrant, ils avaient fait... Allez, un truc en ligne comme ça.
Le Work Adventure.
Ouais.
Ah oui, le Work Adventure.
Pour se retrouver dans les couloirs.
Qu'est-ce qu'on pouvait y faire dans le Work Adventure?
Ouais, t'avais un petit bonhomme, tu pouvais te balader dans un environnement...
Ouais, comme un RPG.
Ouais, 8 bits comme ça. Allez, le plan graphique.
Un jeu vidéo.
Mais du coup, quand tu passais, un autre petit bonhomme.
Ouais. Admettons, on se croise dans le couloir, qu'est-ce qui se passe?
Donc, moi, je
croisais Thiers, par exemple.
Ouais, par le browser, donc tout le monde avait...
J'ai mon navigateur ouvert, je vois une petite map avec mon petit personnage que je peux déplacer avec les flèches directionnelles.
Ouais, et t'as aussi ton browser qui te dit, tiens, est-ce que tu veux allumer ton microphone?
Non.
T'as le choix, et ta caméra, et du coup, en croisant des gens dans les couloirs, les avatars... Dans le jeu, tu avais une petite conférence vidéo.
Ouais, avec Vichy derrière.
Et à faire des.
Il y avait aussi un autre truc, c'était quand il y avait des salles de réunion, donc vraiment des salles de jeu, quoi, mais de réunion.
Et sur le plan.
Et quand il y avait deux personnes dans cette salle de réunion ou plus, tu avais une conférence qui commençait, toujours avec Vichy derrière. Et donc tu pouvais voir des gens qui étaient tous dans une salle de réunion et tu dis ok, je vais m'approcher mais pas trop, et si tu t'approchais un peu trop, tu rentrais dans la salle, dans la conférence et, bonjour, je me suis trompé de pièce.
Oui, c'est tout à fait ça.
Non, c'était pas mal.
Oui.
Et qui d'entre vous a participé à se balader dans les couloirs dans les salles de conférence
lors du CCC?
Non.
Pas moi. Moi
je l'ai découvert après.
Je préfère les contacts humains que les trucs en ligne. Mais c'est qui c'est, enfin, je suis retourné après regarder le work adventure.re. C'est vrai que c'est délirant.
Il restait encore quelques zombies qui ne savaient pas comment sortir.
Mais il y en a encore, il y a encore des gens qui se retournent.
Ils sont coincés dans des pièces.
Ouais, c'est comme un mini-jeu. C'est tout des décors. Donc, du coup, tu atterris dans un décor, mais quand tu sors du décor, tu arrives dans une rue, et dans la rue, tu as plein d'autres bâtiments. Et quand tu rentres dans les bâtiments, tu as d'autres décors. Et dans ces décors, tu as des salles ou des couloirs. Et chaque fois que tu croises quelqu'un, tu peux faire des coucou vidéo et papoter, comme tu le ferais dans une immersion 3D, sauf qu'ici, ils ne sont pas fait chier avec de la 3D, c'est juste des bons gros pixels comme avant, ce qui rajoute un certain charme à l'expérience technique de déclencher des Jitsi comme ça à la demande. Un Jitsi étant, comme vous le savez peut-être, un truc de conférence en ligne, vidéo et son. Mais quand tu croisais un personnage, tu avais ton GT qui s'activait, et tu voyais le personnage en face, si sa caméra était activée aussi, et tu pouvais parler comme ça. Why not? Et donc...
J'essaie de retrouver l'endroit exact où il y avait ce Work Adventure. Je retrouverai avant la fin de l'émission.
Quand l'URL?
Oui.
Work, comme le travail. Adventure.
Comme l'aventure,
mais en anglais. Et sauf que le mot adventure est coupé, puisque c'est workadventure.re. Parce que c'est in.
Ah, c'est moins de caractères.
C'est workadventure.
En anglais maintenant.
.re.
Moins de lettres à taper.
Ouais.
C'est important.
Bah ouais, c'est comme gnuragiste.es. C'est pareil. Youpi.
Ah, vous n'êtes pas espagnol alors?
Non, on n'est pas espagnol.
Un poquito.
poquito.
Si.
Et il se passe des trucs dans la régie, donc on s'est tous arrêtés.
Il y a un blanc, il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans.
On dirait un running gag.
C'est marrant. Ouais, t'as poussé sur le on air au moins.
Celui-là, on ne l'a pas encore fait.
Ah, ouais, c'est vrai.
Non, je sais pas, moi, on peut faire une petite pause musicale, histoire de se ressourcer.
Allez, c'est parti.
back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in. But I know that I'll be coming, coming home to you. And you know that I'll be driving, driving home to you. A thousand miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. But it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home sweet home. I would do it all again. To a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. Whoa, but it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home sweet home, my home sweet home, my home sweet home.
Ok, tu répètes après moi, Radio Campus 92.1.
Radio Campus 92.1,
point 1.
Point 1.
Point 1. Radio Campus 92.1.
Et nous revoilà. Re-bien le bonjour.
Bonsoir.
Bah du coup, je peux continuer la conversation pour...
Juste avant que tu ne continues la conversation, il y a quelques titres à annoncer quand même.
Mais je voulais continuer sur Electroid en fait.
Oui, mais le titre des artistes
qui viennent de... Ah oui, le titre, pardon. Oui.
Il y a Stastu and Van Music, ça c'était le deuxième. Et le dernier morceau, c'était Hatch Memory. Et j'ai pas les artistes parce qu'ils ont pas décidé de mettre les artistes dans les titres. Mais tout ça se trouve sur auboutdufil.com. Et normalement, que les titres, vous retrouverez les musiques.
Waouh. Il y a plein de chouettes trucs sur Au bout du fil.
Du coup, pour un peu continuer sur Evdroid, ouais, je disais, enfin, on prenait l'exemple un peu de New Pipe, par exemple, enfin, qui est donc un autre logiciel qui permet aussi un peu de passer outre les services de notre bien-aimé Google. Et
on peut juste expliquer c'est quoi New Pipe.
Bah, c'est ce que je vais faire en fait. Donc si tu me laisses développer.
Donc, New Pipe, c'est ça.
New, ouais, c'est ça. En fait, ça permet de lire des vidéos YouTube, mais sans déjà les publicités. Donc on enlève les publicités et on peut aussi télécharger des vidéos si on a envie. Et après, il y a des fonctions assez chouettes du style mettre en fond d'écran, enfin en arrière-plan plutôt, la vidéo et n'avoir que l'audio en fait. Et quand tu écoutes une musique, par exemple là-bas, et ben c'est pas mal. Et le truc, c'est que c'est disponible que sur Evdroid. Et oui, il y a des applications qui sont disponibles que sur Evdroid aussi.
C'est un peu de YouTube DL.
C'est ça, c'est exactement ça. Mais
il se base dessus.
Ouais, et donc, oui, il se base surtout sur l'API, donc, qui est vraiment la manière dont on parle au serveur de YouTube. Donc, il va se baser là-dessus. Non, même pas, je crois. Non, c'est encore pire. Enfin, encore pire. Il va se baser sur les pages HTML qu'il reçoit. Il va les parser. Il va regarder ce qu'il y a dedans. Et il va dire, ah, la vidéo se trouve là. Je récupère la vidéo. Ah, les commentaires se trouvent là. Je récupère les commentaires, etc. Le problème, c'est que, bizarrement, YouTube change souvent sa disposition de page. Et souvent, NewPipe est cassé et ne fonctionne plus. Et donc, tu as un beau message d'erreur. J'ai pas pu réussir à lire la vidéo. Et donc, il y a souvent des mises à jour qui viennent réparer ça. Et bien, Evdroid met un peu de temps pour mettre les mises à jour et c'est généralement, ça peut aller jusqu'à plusieurs semaines. Hein. J'ai déjà vu plusieurs semaines. Et donc, tu as ton NewPipe qui ne fonctionne plus trop pendant quelques semaines. C'est un peu chiant. Et donc, Evdroid a un truc super intéressant. C'est une notion de repository, donc de dépôt tiers. Donc, comme pour Linux, on va avoir les dépôts principaux de sa distribution Linux. Et on va pouvoir installer des dépôts tiers qui vont permettre d'avoir soit des logiciels qui n'étaient pas présents, soit des mises à jour plus récentes. Ben, c'est exactement le même principe. On va avoir le NewPipe qui sera mis à jour plus vite, en fait, de l'ordre de quelques jours, un ou deux jours, on va dire, au lieu d'une semaine. Et donc, NewPipe, ils fournissent leur propre repo, c'est sur leur blog, ils expliquent comment l'installer, etc. C'est super simple. Et ouais, depuis que je l'avais fait, en tout cas, j'avais plus de soucis pour de cassage d'application. Donc voilà. Evdroid, c'est quand même déjà un peu plus libérateur en termes même de contrôle de qu'est-ce qui se trouve dans le store. Dans le magasin d'applications.
Et du coup, tout ça pour en revenir au bienfait de Evdroid. Merci Evdroid. Et on en a déjà parlé que NewPipe a été cassé parce qu'il se base sur YouTube DL et que récemment l'autorité de visuel des États-Unis avait réussi à suspendre YouTube DL. Revenez dans les émissions précédentes, je crois que c'était aux alentours de novembre. Octobre-novembre. Mais, à la base, on parlait des messageries.
Ah oui.
Et la raison de pourquoi on parlait des messageries, c'est que nous avons vu une belle, un beau visuel montrant plein de messageries différentes.
Ah, oula.
Waouh, tu remontes à plusieurs jours, toi, dans le temps.
C'est tu fais de l'archéologie, là. On est quand même à l'ère numérique ici. Le temps passe en femtoseconde.
Il me semble que c'était Lekin qui avait trouvé ça. C'est en fait, il a remarqué, il a trouvé une infographie de Nibo N-I-B-O-E, qui liste un peu donc, les applications propriétaires de messagerie versus celles qui sont libres et décentralisées. Et là, ils ont un peu comparé qu'est-ce qui est, voilà, telle application est centralisée, telle autre est décentralisée, telle autre est en peer-to-peer carrément, enfin voilà. Et ils avaient mis quelques nationalités sur chaque application, par exemple, je ne sais pas moi, bon, je vais dire Matrix par exemple, c'est majoritairement européen, sauf qu'ils n'avaient pas mis les applications décentralisées, donc Matrix n'était pas à ce moment-là dedans. Et donc Elekin, il a un peu creusé, il a continué le travail, et il s'est rendu compte que les applications qui étaient décentralisées étaient souvent, la grosse majorité des cas, c'était européen.
Sous juridiction européenne.
Ouais, sous juridiction européenne, en tout cas. Et ouais, c'est intéressant. Ce serait intéressant de pousser un peu plus loin et de creuser encore.
Donc, en gros, pour les citer, parce que j'ai retrouvé la petite image, donc, en termes de juridiction, par exemple, les grands noms que tout le monde connaît, que sont WhatsApp, Messenger de Facebook, WeChat, Discord, Skype, Slack, ça, c'est américain. Et puis, on a Telegram, qui est européen, russe, je ne sais pas trop, européen, il me semble. Enfin, pour moi, c'est russe, mais bon, soit.
Tu as dit WeChat, c'est
non,
chinois.
Telegram. Non, Telegram. Ah oui. Mais alors, par contre, dans tout sous juridiction européenne, on a Braillard, Tox, Jamie, Delta Chat, Nextcloud, Talk, XMPP avec le logiciel Conversation et Matrix avec le logiciel Element. Et c'est rigolo parce que c'est vraiment... Il y a une comparaison aussi serveur centralisé ou pas. Ben, toutes les applications américaines sous juridiction américaine donc, que j'ai citées avant sont sur des serveurs centralisés. Et toutes les applications sous juridiction européenne sont plutôt... En partie, certains d'entre eux, comme Element, Wire ou je sais plus quoi, sont sur un serveur centralisé, mais d'autres sont sur des serveurs décentralisés. Donc il y a vraiment une tendance comme ça qui apparaît dans ce petit graphique de c'est fou comme en Europe, il y a un peu plus de travail qui est fait pour garantir des communications, plus intimes par rapport à tous les autres services. US.
C'est là où ce serait intéressant de voir un peu, de creuser un peu plus loin, parce que ouais, ça montre une tendance, mais je sais pas trop quoi, pourquoi, tu vois. Bah, est-ce que c'est les lois américaines qui font poussent à ça ou?
Bah, c'est une tendance, parce que en plus de ça, hein, il y a le côté serveur centralisé, le côté sous juridiction, mais il y a aussi le côté licence logicielle. Mm-hmm. Tous les serveurs, tous les logiciels que j'ai cités américains sont sous licence propriétaire, alors que les logiciels comme Signal, qui est américain aussi, mais elle est libre. Le logiciel comme Rocket Chat, qui est américain aussi, ben, il est sous licence libre. Mais tous les autres, Jamie, Braillard, Tox, Delta Chat, Nextcloud Talk, Conversation XMPP et Element Matrix sont sous licence.
Attention que les trois sont liés, sont très fortement liés. Si tu as un serveur centralisé, tu vas déjà moins respecter la vie privée des utilisateurs. Et c'est quoi le dernier
c'est plus ce que t'avais dit. La juridiction, la licence.
La licence, ben oui. Si c'est un seul serveur centralisé, généralement, c'est aussi... Dans l'autre sens, en fait, si t'as un truc libre, t'as plutôt intérêt à ce que ce soit décentralisé, parce que sinon tu dois trouver un business model pour supporter les coûts d'un serveur centralisé. Ce que c'est le problème d'ailleurs que Signal avait, enfin ouais c'est ça, et parce que leur serveur, enfin il y a moyen d'installer un serveur Signal, mais visiblement c'est pas évident à faire. Donc eux ils se retrouvent à maintenant devoir supporter les coûts d'un serveur centralisé.
Ouais, mais Signal c'est centralisé, hein. Il n'y a pas de question décentralisée.
On peut installer son propre serveur Signal.
Ouais, sauf que...
Mais pour l'instant, c'est centralisé. Factuellement, concrètement, c'est centralisé.
T'es dans ton petit coin. Ça ne va jamais se connecter
avec c'est pas fédéré, peut-être.
Le réseau Signal, comme il est super populaire de ces jours.
Tout à fait.
C'est du logiciel libre, mais Moxie Marlin Spike, il est très prononcé sur... l'année passée, il a fait... un talk au CCC sur... Bon, contre la décentralisation, en fait.
Ouais.
De dire, OK, jusque...
Mais qui dit centralisation, dit contrôle de l'information.
Ouais. Il a beaucoup travaillé sur le truc end-to-end encryption. Donc d'avoir un protocole crypto ouvert, mais qui tient la route sur de chiffrer, déchiffrer sur les deux
points, les deux points,
ouais, les gens qui communiquent, et d'avoir aucune visibilité de ce qui se passe. Allez, bon, dans le réseau. Ouais, tu vas toujours je sais pas jusqu'à quel point. Bon. Ils peuvent voir qui communique entre eux, mais ça c'est toujours...
Ouais. Ça on en avait parlé la dernière fois, mais... Enfin, on avait parlé de ces problèmes-là, mais du coup... Il y a quand même... Enfin, allez. Le fait que ce soit centralisé, etc., ça pose des problèmes. Et on voit qu'en général, du coup, avec cette infographie... En plus de ces problèmes de coûts, etc., de gestion... ça respecte. Enfin, Signal respecte. Hein, il est clairement dans la colonne. On respecte votre vie privée. Mais ça, les autres, les 9 sur 10 respectent pas la vie privée. Respectent. Enfin, tu vois.
Mais de toute façon, j'ai rien à cacher et je m'en fous de ma vie privée, dira l'utilisateur.
Lambda.
Et jusqu'au jour où la juridiction de ton pays dira que le comportement légitime que tu as aujourd'hui n'est plus légitime.
Mmh. Genre prendre des selfies dans la rue sans son masque.
Et le Signal a ce problème-là maintenant. Comme en Iran, ils ont coupé l'accès aux serveurs. Et du coup, tous les Iraniens...
doivent prendre un VPN.
Ouais, ce qui se fait maintenant... Donc Signal fait un appel à des gens pour démarrer des proxys. Donc des proxys HTTPS qui pointent, qui relaient les connexions Signal vers leur serveur. Donc du coup, de centralisation, maintenant ils doivent faire des... Là où en décentralisé, tu pourrais... c'était un effet naturel. Il ne faut pas tourner des proxys.
Un autre problème, ça peut être tout simplement un gouvernement américain, par exemple, qui déciderait de faire tomber le serveur. Pardon. Mmh. Là, pour X raisons, on a trouvé un réseau criminel sur votre serveur. Hop, on le fait tomber et on n'en parle plus. Ce que je veux dire par là, c'est quand c'est un seul endroit, enfin une seule entité qui contrôle le serveur, ben, c'est facile aussi de l'arrêter. Tu vois, pour X ou Y. Après, tu trouves la raison, mais c'est pas la question. C'est juste, il y a un danger que ça disparaisse un jour. Tandis que, par exemple, pour revenir sur Matrix. Le jour où on fait tomber matrix.org, mon serveur à moi, il est toujours là. Mmh. Et je peux toujours parler avec tous les autres. Bon, ceux qui étaient sur matrix.org, désolé, mais voilà.
En même temps, ce que tu dis, je comprends ce que tu dis, mais tu vois, par rapport à souvent les... C'est aussi une question d'échelle, quoi, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, par exemple, Signal, il y a énormément de gens qui, pour l'instant, arrivent sur Signal, mais qui ne sont pas des geeks ou des gens...
L'utilisation du logiciel n'a rien à voir avec la fédération.
Je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que, idéalement, je comprends que ce serait mieux fédéré. Mais donc, dans le cas de Signal, comme c'est quelque chose qui se passe en termes de messagerie actuellement et qui touche beaucoup de gens, est-ce que, par exemple, il faut encourager les gens à continuer à aller plutôt sur Signal que sur d'autres messageries qui sont moins utilisables pour toute une série de raisons ?
Je dirais que ça a une première étape, de toute façon. Ouais.
Et pour moi, c'est pas parce que tu es décentralisé que tu es... garant que d'office, tous les utilisateurs vont bien être décentralisés. Si on prend par exemple le cas de Signal et qu'on prend le cas de matrix.org, on arrive dans le même problème, c'est-à-dire qu'une masse non négligeable va sur une seule instance unique, centralisée, et il y a juste une minorité qui bénéficie de ce côté décentralisé.
Oui, c'est ce que je voulais dire aussi après. C'est effectivement un gros problème que, et pour Mastodon par exemple, ils ont eu le même problème. Et le truc, c'est en fait, ça arrive pour deux raisons. La première, c'est que le serveur d'origine ne ferme pas ses inscriptions. Donc, ils disent continuer à y aller. Et effectivement, les gens, par facilité, ils ne savent pas où se diriger. Donc, ils vont aller sur matrix.org, par exemple. Et le deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas de liste de serveurs de confiance, en fait. Et Mastodon, en tout cas, je ne sais pas pour Matrix, Mastodon, ils ont mis en place, du coup, sur leur site web, johnmastodon.org, je pense, ils ont mis une liste des serveurs par catégorie. Même, ils ont dit, si vous êtes musicien, parce que, bon, Mastodon, c'est, voilà, je ne vais pas trop dans le détail, mais on peut mettre des thématiques. Si vous êtes musicien, allez plutôt voir ces instances-là. Si vous êtes activiste, allez voir. Et du coup, ouais, ils ont fait beaucoup d'efforts pour ça, pour empêcher justement cette centralisation. Mais c'est toujours un gros problème, quoi. Mais disons qu'en cas de... Ça allège un peu le risque de le jour où ça se casse la gueule, enfin, où le serveur se casse la gueule pour X raisons, le réseau n'est pas par terre. Et on peut toujours aussi rattraper le coup en allant ailleurs. Voilà, ce sera un peu la panique, mais on pourrait toujours continuer à discuter avec les autres à un moment donné. Donc, mais c'est clair que voilà, hein, c'est pas évident à gérer.
Si tu sais encore qui est qui, s'il faut reconstruire ton. Bah bon, c'est déjà. Ouais.
T'as d'autres moyens de communication, ouais, ça se fait.
Oui, c'est la question de la portabilité de tes données. Mmh. Que tu peux extraire ton profil de et aller le mettre sur
Pour Matrix par exemple
évidemment non
l'historique des messages non tu pourras pas, enfin je pense pas, la dernière fois que j'avais regardé
c'était aussi un des points du, je sais plus si c'est le GDPR qui a amené ça disait qu'il fallait avoir des API d'exportation, donc avoir entre guillemets les outils techniques pour pouvoir exporter ces informations d'une plateforme pour pouvoir les amener dans une autre plateforme.
Ouais.
Bah, par exemple, sur cette question de la centralisation du service Signal ou de la décentralisation, par exemple, comme les instances Mastodon, et qui sont en plus des instances thématiques, au moins, quand tu vas sur Signal, tout le flot d'informations chiffrées, c'est un gros brouillard.
C'est un peu la même règle que pour les mails GPG.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que l'initiative, par exemple, comme Delta Chat, qui se repose sur, au lieu de réinventer la roue, c'est simplement ton adresse email ou une adresse email quelconque que tu prendrais pour l'occasion, ou je ne sais pas. C'est. au fond, tous ces outils de chiffrement, enfin, tous ces outils, pardon, de communication, ont en commun qu'ils tendent à amener et à faciliter l'utilisation du chiffrement pour les quidam, les gens normaux qui, n'ont même pas la possibilité ou le temps de s'intéresser aux questions techniques sur qu'est-ce que c'est que le chiffrement. Il faut fabriquer une signature, une clé, un certificat, une clé publique, une clé privée. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai pas compris ?
Mais j'ai qu'une clé pour ma maison.
Et donc, du coup, tous les efforts qu'il y a derrière ces applications qu'on cite en général, hein, les Matrix, Element, Signal, Delta Chat, Mattermost, Mattermost, je suis même pas sûr qu'il y ait du chiffrement dans les trucs.
C'est possible.
Ou bien les emails avec GPG, en fait, c'est comment rendre beaucoup plus accessible, beaucoup plus généralisé le chiffrement dans les échanges interpersonnels ou de groupe à groupe. Parce que, au fond, il restera toujours ces questions sur les métadonnées, hein, quelle adresse IP a communiqué avec quel serveur à quel moment donné, ou je sais pas, tout ça. Mais au moins, sur ce qui est du contenu qui est échangé entre les utilisateurs et les utilisatrices, toutes ces applications font l'énorme effort de rendre le chiffrement du message transparent pour les personnes qui utilisent l'outil. Et donc ça, c'est quand même un énorme bond en avant. Il y a 20 ans, on téléchargeait ces emails en POP. Hein, et ce qui veut dire que chaque fois que le logiciel de courrier électronique ou le logiciel IRC communiquait avec un serveur, tout le contenu de l'échange est lisible par n'importe quel intervenant sur le réseau, au final. Parce qu'il est, comme on dit, en clair. Et y compris, pour peu qu'on puisse se connecter à une B-box pendant sa communication avec un serveur POP, on voit passer username, tartampion, mot de passe, coucou boudin, et puis voilà. Et ça, c'était lisible noir sur blanc par n'importe quel administrateur réseau qui capterait le flux pendant tout le transport. Et grâce au chiffrement, bah, tout ça, ça l'est plus.
C'est plus compliqué.
Oui, ça, enfin, de toute façon, voilà, au fond, c'est toujours la question de si vraiment on a besoin de casser des chiffres, on peut y mettre toute l'énergie nécessaire, mais justement, en rendant le chiffre encore plus omniprésent et encore plus utilisé, ben ça rend, on va dire, le travail de déchiffrement encore plus chiant pour ceux qui passent leur vie à essayer de déchiffrer. En général, les agences de renseignement ou, je sais pas moi, la grosse criminalité sur Internet.
Et c'est d'autant plus intéressant que si la majorité des échanges sont chiffrés, on sait plus cibler quels sont les échanges qui sont plus pertinents par rapport à d'autres.
Oui. Oui. Et c'est ça aussi qui est, je pourrais imaginer comprendre Moxie Marlin Spike, donc le créateur, on va dire, le créateur de Signal, qui est pour la centralisation. C'est que ça crée aussi, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'à une échelle pareille, quand on parle de serveur centralisé, c'est pas une machine dans un data center, hein. C'est quand même un réseau de machines réparties sur plusieurs data centers. Mais qui est au fond, si je n'ai pas les compétences personnelles d'analyser leur code, mais si tout le flux d'échanges qu'il y a entre les différents points que sont les utilisateurs et les utilisatrices, que ce soit une communication de 1 à 1 ou des communications de salon de discussion, si tout ça est dans un gros brouhaha de messagerie, de paquets, on va dire, réseaux qui transitent et qui se stockent peut-être dans des bases de données, mais si tout ça est chiffré de manière correcte, et que la fondation, l'organisation Signal, les gens qui gèrent ces serveurs n'ont pas les clés de déchiffrer. Personne ne sait lire et personne ne sait classer non plus le contenu de tout ce brouhaha, en fait. Donc, voilà, c'est une autre manière de accroître l'intimité sur Internet, c'est de rendre plus accessible le chiffrement au commun des mortels, pour ainsi dire.
Ah oui, non, mais c'est clair que quelque chose de centralisé, ça va simplifier l'utilisation aussi. Hein.
Bah oui.
Mais c'est clair que aussi, s'il y a un choix à faire entre la simplicité, etc., d'utilisation, encore que l'interface graphique joue beaucoup aussi. Mais de compréhension de comment ça marche, comment où sont mes données, à quel moment, et la résilience, quoi. C'est-à-dire que quels sont les risques que combien de temps, en fait, le serveur sera toujours maintenu, etc. aussi, parce que en janvier ils ont eu quand même du gros stress Signal, pour pouvoir au moins faire en sorte que le serveur continue à fonctionner. Parce qu'ils étaient, il n'y avait plus personne qui pouvait envoyer ces messages. Il y avait tellement un afflux tellement énorme. Et je ne dis pas, hein, matrix.org, il se prend ça, et il doit fermer leurs inscriptions, à mon avis, au plus vite. Ça crée de la confusion et les gens ne vont plus savoir où aller. Voilà. Mais,
Après, c'est toujours la question, parce qu'une des raisons de pourquoi il y a eu un exode massif vers Signal, c'est qu'une autre grosse messagerie a démontré que la confidentialité n'était plus une de ses priorités.
What's up?
Ça n'a jamais été.
Oui, c'est ça. Au
début, peut-être.
Ouais. Non, non.
Avant que c'était vendu.
Comme ouais, Reality Guy, tu veux dire.
Non, avant que cette messagerie ne se fasse acheter, c'était dans leur message d'accroche.
En fait, c'est Moxie Marlin Spike dans le temps qui a fait l'encryption de WhatsApp avant l'achat.
Ah oui, mais ça aussi, c'est une autre question. Hein.
Et du coup, ils ont petit à petit coupé.
La question du rachat des trucs, c'est plus facile de rester un truc qui est centralisé et qui a quelques serveurs par-ci par-là, et tu, hop, tu rachètes, tu reprends les serveurs, et voilà, qu'une fédération. Vas-y, enfin, ouais, le jour où tu rachètes Matrix, ben, les gens ils font un fork et ils se cassent tous de Matrix.org.
Après, le rachat d'une fondation, c'est toujours un peu plus compliqué.
Non, mais aussi, mais je sais pas. Oui, Signal, c'est vrai, c'est une fondation. Mais voilà, pour, enfin, peut-être que justement, parce qu'il a, il a eu le coup avec WhatsApp, il s'est dit, oh, je veux pas deux fois, je sais pas. Mais oui, évidemment, il y a des mécanismes juridiques qui aident aussi, mais c'est, mécaniquement, c'est plus facile.
Bah, d'où l'importance du choix de la licence quand on crée des logiciels. C'est que rendre un logiciel sous licence GPL, ça veut dire le rendre public, mais tout en signifiant la propriété, on va dire, d'origine, la propriété intellectuelle d'origine, mais tout en contraignant aussi, parce que c'est... Enfin bref, quand le logiciel a été libéré, il n'est pas achetable.
C'est plus compliqué.
Donc le logiciel appartient à quelqu'un, bah, potentiellement, à quelqu'un, le quelqu'un étant une personne morale ou une personne physique, je vous mets 1 million. Oui. Non, c'est pas assez. 10 millions. Non, c'est pas assez. Je vous mets 0,5 milliard. Ah, un petit peu plus. Non, mais... c'est... Bon, allez.
Et 3 milliards. Pastèque et...
Ah, là, je suis d'accord.
Non. Voilà. Mais c'est un peu plus compliqué parce que, effectivement, tu peux racheter un logiciel libre. Et en fait, à partir du moment... Donc, tout ce qui était avant reste libre. Et à partir du moment où il est racheté, le code, par exemple, n'est plus mis à jour, en fait, si tu veux. Donc, il y a moyen. Mais voilà.
Ça, c'est discutable juridiquement.
Mais ça dépend aussi de la licence. Hein. C'est vrai que ça dépend de la licence.
Parce que si c'est une licence GPL...
GPL, par exemple. Ouais, mais bref, on ne va pas rentrer dans...
Ah si, c'est justement toute la finesse de la propriété intellectuelle, du savoir et des outils et au fond des propriétés et des biens communs. C'est derrière ça, il y a toutes ces questions. C'est pour ça que encourager des développeurs à fabriquer des logiciels et de les mettre sous une licence GPL, c'est encourager la liberté des gens, des peuples, du monde. Et ce n'est plus, pour moi, la liberté qui est encouragée au FOSDEM, par exemple.
Après, il y a quelque chose que tu ne pourras jamais faire, c'est copyrighter une idée. Et du coup, tu peux avoir des logiciels très très brillants, libres, qui se font juste copier-coller et rendus propriétaires.
Ah oui, mais... Enfin, là,
mais juste pour... je voudrais juste faire un point pour les licences, du coup, on va juste faire ça. T'as la licence GPL, et en fait, l'obligation derrière, c'est si tu fais des modifications, tu dois les publier.
Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le copyleft.
Ouais. Mais dans le cadre d'un serveur, c'est si tu fais des modifications, enfin je sais plus exactement, mais c'est un peu différent si c'est un logiciel qui n'est pas installable en fait par les personnes. Et c'est pour ça qu'il y a la AGPL qui dit si tu comptes en faire un service web, là tu dois aussi publier les modifications. Il y avait une faille en fait à un moment donné, et c'est pour ça que je veux faire juste la différence entre les deux. Parce que j'ai l'impression que toi, quand tu parles de GPL, ça va être la AGPL et... enfin, bref. Non, mais c'est pas exactement la même chose. Et la licence GPL a évolué au cours du temps, justement, parce qu'il y avait ces petites failles, etc., ces petits bugs.
Ces petites failles d'interprétation du droit, hein, de toute façon.
Et qui font qu'ils se sont fait avoir quelquefois en se pensant qu'ils étaient protégés et tout.
Parce que...
Et je peux citer un cas... Ce qui est intéressant, c'est par exemple le cas de Elasticsearch. Donc Elasticsearch est une base de données qui permet de archiver, référencer des documents. Et les documents, ça peut vraiment tout n'importe quoi. Ça peut être des PDF, ça peut être du texte, ça peut être... Voilà, tout et n'importe quoi. Sauf que la société qui est derrière, elle s'appelle Elastic. Et récemment, ils ont changé leur licence de Elasticsearch, leur moteur de base de données, parce qu'il y avait le vilain Google qui se faisait beaucoup trop d'argent et qui ne refournissait pas ses modifications à la communauté Elasticsearch. Donc Elasticsearch a été développé en open source et maintenant il va repasser en closed source parce que des entreprises se font des bénéfices.
Et c'était quoi la licence d'origine du coup ?
Je vais te la retrouver.
Et du coup, là, par exemple, il y a un combat juridique ou... Parce que c'est ça qui est terrible aussi. Du coup, évidemment, tu retombes sur la justice qui est... C'est pas toujours...
Pas toujours
très juste.
Comme on dit si gentiment, dans un milieu anarchiste, ça reste une justice de bourgeois.
C'était une licence Apache élastique. Et du coup, licence Apache n'est pas copyleft, donc n'oblige pas en fait à publier les modifications quand il y en a sous la même licence. Mm-hmm. Et ce qui fait qu'effectivement, là, ils ont pu... Et c'est ça, en fait, le piège. Hein, c'est quand tu as un projet qui est mené par une entreprise et que c'est sous une licence non copyleft, il faut quand même être vigilant sur est-ce que ils vont un jour changer d'avis.
Ouais, mais même MySQL, c'est GPL.
Ouais.
C'était fait par je sais pas qui, MySQL Foundation, ou ça a été acheté par Oracle.
Il y avait deux bouts, hein, MySQL, tu avais une version
GPL
et Proprio.
Ouais, donc c'est le truc de double licence. Le développeur, il a
c'est le même principe,
son copyright.
Hein.
Et ça sera toujours le cas. Quand tu fais un ajout de code à un projet, il y a bonne chance qu'ils vont te demander, mais tiens, donne-nous, signe de permission de donner ton copyright à nous, à la fondation ou au truc. Mm-hmm. Et du coup, eux, ils peuvent quand même encore se faire acheter. Donc c'est pas juste GPL.
Quand tu as deux licences, tu peux choisir en fait laquelle s'applique. Et toi, en tant qu'utilisateur, tu vas choisir celle qui est la plus libre pour toi, donc la GPL. Mais pour l'entreprise, ils vont avoir plutôt tendance à... Enfin, ils ont un intérêt aussi à pouvoir choisir la propriétaire.
Ouais. Mais dans le cas d'Elastic, eux, ils ont le copyright de tout le code, ou les gens qui ont fait des ajouts, ils ont signé...
C'était en Apache, donc...
Ah oui, donc là, il n'y a pas de... Mais si, même si ça aurait été en GPL, à mon avis...
Ça aurait été différent.
GPL, ça aurait été différent, je pense.
Ouais.
Oui, ça aurait été différent parce qu'à ce moment-là, donc c'est plutôt AGPL.
Ouais.
À ce moment-là, toutes les modifications qu'Amazon aurait fait au moteur Elasticsearch auraient eu l'obligation de la redistribuer. S'ils n'avaient pas redistribué les modifications qu'ils ont faites et que Elastic peut prouver qu'ils ont fait des modifications, ils peuvent les attaquer en justice et forcer la main à Amazon de montrer les modifications faites. Je te prends un autre cas qui est un peu plus vieux, mais celui-là, j'ai vécu la bataille juridique. Les Livebox de Orange, enfin ex-Mobistar, qui avait en Belgique, ont eu l'obligation de fournir toutes les mutations des codes sources parce qu'ils utilisaient des logiciels GPL. Entre autres, comme logiciels qu'ils utilisaient, il y avait des... Donc, c'était pas du GPL, c'était du BSD, mais tu avais OpenSSH qui a fait des modifications, tu avais le kernel qui a fait des modifications, tu avais le protocole PPTP. L2TP qui avait aussi une investigation et le bras de fer avec Mobistar est tombé. Ils ont dû libérer complètement la Livebox de ses sources.
Le projet OpenWRT, c'est une histoire pareille
avec Linksys cette fois-ci.
Ouais, dans le temps.
C'était avec le premier, c'était WRT54GL.
Ouais.
On est parti dans des...
Pardon.
Dans les trucs réseau.
Mais ouais, hein, c'est source. On remonte là aux sources.
Mais effectivement, il y a eu des entreprises qui se sont vues obligées de fournir les sources de leurs modifications parce qu'ils ne respectaient pas les licences copyleft.
Mais donc, copyleft, ça reste quand même extrêmement puissant.
Oui, si on fait attention aux petits détails visuels.
Ouais, c'est clair.
Ça apporte une certaine garantie. Mmh.
Bah, disons que ouais, c'est ça. Il y a toujours, il y aura de toute façon. Disons que c'est un outil qui permet de faire des actions en justice, au fond. Ouais. C'est-à-dire que c'est un outil qui apporte une philosophie dans le développement, mais si voilà, des gens se rassemblent ou des gens ont assez d'argent pour dire non, mais là, il y a un manquement par rapport à l'exploitation du logiciel qui est sous une licence libre et copyleft. Et qu'il faut tout faire pour faire reconnaître à l'entreprise frauduleuse, c'est-à-dire qui ne respecterait pas le partage des modifications qu'elle aurait apportées à ce code. Il faut encore pouvoir payer les avocats qui vont pouvoir défendre cette cause devant des tribunaux pour forcer l'entreprise à respecter la licence.
Après, pas mal de cas de conflits d'utilisation de la GPL. se sont résolus sans devoir passer par les tribunaux. En fait, le fait d'agiter, mm-hmm. le fait que, hey, en fait, vous ne pouvez pas faire ça parce que c'est la GPL, etc., et on va pas content. Bah, les entreprises, ils se disent, oh, ouais, bon, on va peut-être éviter. Parce qu'en fait, ça, déjà, il y a la pub. Il y a la mauvaise pub. Et ensuite, c'est quand même des frais d'avocat, etc., pour pas être sûr de gagner de leur côté.
Il y a aussi l'EFF hein, qui a aidé dans certains combats à fournir des avocats pour justement défendre des logiciels libres.
Oui, l'Electronic Frontier Foundation, EFF.
GPL-violations.org, ce sont un développeur de GNU Radio qui a mis ça en route. Il y a des années. Je ne sais pas si c'est encore si actif, mais c'est quand même un moyen de pression collectivisé.
Oui, et après, il y a aussi la transposition de la GPL dans les différents pays. Il me semble que pour la France, elle s'appelle Cécile, la licence qui est équivalente à la GPL.
Mm-hmm. C'était fait par le gouvernement, je crois, français. Je ne suis plus exactement sûr.
Ah, il y a Holm qui nous dit sur les réseaux que c'est concernant le Linksys, le modem routeur, c'est le WRT54G qui a lancé le bazar, parce qu'il y avait le WRT54GL.
Oui, c'était après.
Avec pour le Linux. L de Linux.
Notre seul auditeur qui nous signe à ça.
Et donc toi tu disais, c'était quoi le GPL Observatory,
GPL-violations.org.
GPL-violation.org. J'ai jamais entendu parler.
Ouais, je
comme quoi.
Harold Welt.
Sympa. Ils veulent buter du GNU. Non, mais c'est parce qu'il y a un logo avec un beau GNU, avec une belle cible qui lui pointe sur l'œil, ça fait peur. Ils veulent buter des GNU. Non, c'est pas ça.
C'est pas le safari.
C'est eh bien, jeunes gens, on arrive tout doucement à cette fin d'émission.
Non, déjà Source, ah oui, dis.
Qui est émise sur Radio Campus 92.1. Est-ce que vous avez encore un coup de gueule, une doléance, un mot d'amour, un coup de cœur à dire à nos différents auditeurs?
Non, mais t'en as des questions aussi.
Ouais, c'est ça. Bonne crêpe à toutes et tous.
Bonne crêpe.
Ah ouais, c'est juste, tiens, le WRT54G avait servi comme base pour le réseau citoyen. Un bon vieux projet, je ne sais même pas s'il y a encore des morceaux qui fonctionnent aujourd'hui, mais qui était aux prémices de Neutrinet.
Ça me dit quelque chose, ouais.
Ouais. Bref, la liberté est au bout du chemin.
Yes. Eh bien, sur ce, on va se laisser.
Plus.
Merci de nous avoir écoutés. Et à donc un jour.
Eh oui.
C'est vrai. Tip of a